RCF.
Vous avez encore des choses à nous dire, n'est-ce pas?
On est les champions.
Gardez le moral.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour chasser la grisaille et filer en mode de toutou doux en cette fin d'après-midi. Alors sous la couette aujourd'hui, manger des frites est-il aussi bon pour la santé qu'une même portion d'amandes? Eh bien une étude américaine s'est penchée sur la question, un résultat qui donne la patate tout à l'heure avec le docteur Pascal Douek dans le rendez-vous mieux-être du lundi. Puis les souvenirs, il y en a des bons et des moins bons. Alors comment se libérer des mauvais pour avancer? Delphine Agençon nous donnera quelques pistes dans la chronique « Que d'émotions ». Lui, il a laissé le souvenir du premier missionnaire avoir été introduit dans la cité interdite en Chine. Une rencontre et un symbole d'ouverture retracé en bande dessinée. Et son auteur est avec nous. Bonjour Jean Dufaux.
Oui, bonjour.
Très honoré de recevoir un des scénaristes maîtres de la BD belge, de Jessica Blandia Murena en passant par Giacomo C. Le maître des brumes, Double masque ou les voleurs d'Empire, autant de séries que vous avez portées. Est-ce que vous avez fait le compte?
Non, je ne préfère pas. Je crois que je l'ai fait une fois dans ma carrière à mi-temps. J'ai eu un vertige et puis au moins je me souvenais encore de tout ce que j'avais écrit. Et maintenant, avec le temps qui passe, ouais, ça devient de plus en plus difficile.
Allez, on peut dire au moins 200 titres à peu près à la louche,
oui,
comme ça. Hein.
Oui, un peu ouais, plus même.
Un peu plus, oui. Ouais. Enfin, quand on aime, on compte pas. Hein. C'est bien connu, Jean Dufaux.
J'espère.
Alors, vient de sortir chez Dargaud, Matteo Ricci dans La Cité Interdite. C'est un album qui nous fait revivre une partie très précise de la vie de ce missionnaire jésuite italien aux portes de la cité interdite, le siège de l'empereur de Chine. C'est une très belle façon de redécouvrir celui qui, dans le respect des religions, eh bien, a contribué à implanter l'église catholique dans ce pays immense. On va en parler, de même que revenir sur votre parcours dans la bande dessinée. Tout doux, la mission pas impossible de Matteo Ricci. C'est parti.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission
Tout doux avec Vincent Belletti.
Un mois se passa avant que le grand moment n'arrive. On fit revêtir au Ricci une robe de damas rouge et un casque de vermeil. Il lui fut donné une tablette d'ivoire dont il devait se couvrir la bouche en prononçant son hommage solennel. Car la laine d'un simple mortel ne pouvait souiller le Fils du ciel. C'était nuit encore quand ils se dirigèrent vers la porte sud de l'enceinte impériale.
Voilà, jour tant espéré. Après des mois et des mois d'attente, celui où Matteo Ricci franchit enfin les portes de la cité interdite. Mais va-t-il rencontrer l'empereur et pourquoi ce rendez-vous? Eh bien, on va garder un peu le suspense. Mais comment vous, Jean Dufaux, vous êtes intéressé à ce missionnaire particulièrement humaniste? Est-ce que c'est parti de vous? C'était une commande liée au 400e anniversaire de la mort de Matteo Ricci?
Écoutez, pour être très franc, je connaissais le nom de Matteo Ricci, évidemment, mais guère plus. C'est-à-dire que j'avais commis auparavant un Vincent et un Foucault, deux figures spirituelles, des itinéraires spirituels, et l'on est venu me demander si cela pouvait m'intéresser de me pencher sur Ricci et d'ajouter, je dirais, ce nom aux deux autres, d'en faire une sorte de triptyque de parcours spirituel. Donc je me suis mis à travailler le personnage, à me documenter. J'ai appris plein de choses. Ce qui est passionnant dans ce métier de raconteur, c'est que vous apprenez. Oui. Apprendre pour comprendre d'ailleurs qu'on apprend jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est évident. Oui. Le problème, c'était effectivement comment communiquer le personnage de Matteo Ricci à des jeunes gens, de ne pas en faire un pensum, de ne pas en faire
une hagiographie non plus,
voilà,
ou de verser dans la complaisance, oui.
Absolument, et de trouver l'angle d'attaque pour en faire une véritable histoire, une aventure en fait, une aventure à la fois humaine et spirituelle.
Alors on va revenir justement sur cette période précise et l'histoire aussi de Matteo Ricci. Mais auparavant, Jean Dufaux, on va retourner un peu en arrière hein, sur votre propre histoire. Vous êtes né à Ninove en région flamande, la même année que le premier album de Lucky Luke, la sortie de Tintin et le Temple du Soleil, ainsi que la création de Oui Oui ou encore de Bip Bip et le Coyote par Chuck Jones. Tintin et Lucky Luke, est-ce que vous les avez tous lus, Jean Dufaux ?
J'étais surtout très grand fan de Bibi le Coyote.
Vous n'êtes pas le seul. Moi, je vous attendais plutôt sur Tintin, Tango Belge. Oui, mais... oui,
c'est pas là que je vais, parce que je me délectais de ces aventures-là. Ouais. Écoutez, dans ma toute petite enfance, vers 4-5 ans, où déjà j'étais attiré par les livres et par l'image, c'était très classique, c'était les Tintins. Ouais. La découverte de ces aventures, de ce mélange d'humour, d'aventure, de cette ligne claire, et de cette clarté surtout du récit, et puis je suis parti dans les romans, etc. Et puis surtout, ce qui m'a poussé vers la bande dessinée, parce qu'au départ j'étais plutôt attiré vers la littérature et le cinéma, c'est l'explosion de Pilote.
Pilote, Matin, Matin, quel journal,
oui, voilà,
vous rappelez
absolument.
Le slogan avec le journal d'Astérix. Oui.
Mais je les avais, mes Pilotes, je les attendais, mes Pilotes, et donc je comprenais qu'à partir de Pilote, on pouvait tout écrire en bande dessinée, vraiment il y avait une pléiade de grands auteurs qui ne pouvaient que vous pousser à écrire dans ce sens-là, et je me suis senti beaucoup plus à l'aise à partir de ce moment pour entamer la bande dessinée, qui est une écriture un peu différente que, que le cinéma, il faut bien l'avouer.
Alors, le scénario plutôt que le dessin, pourtant vous avez commencé, je crois, en dessinant, même vos premières BD ont été diffusées chez Tintin, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter plus vers le scénario que le dessin ?
Là, je rectifie un petit peu, car je ne sais même pas dessiner un œuf. Donc, je suis incapable de dessiner une courbe, ni une ligne droite. Donc, j'ai toujours été attiré, en fait, par, je dirais, l'écriture par rapport à l'image. Voilà, c'est ça. Cette combinaison de l'écriture et de l'image, dont j'étais parti plutôt vers le cinéma, mais bon, là, c'est très technique, c'est très compliqué. Il y a le poids de l'argent, de l'équipe. La bande dessinée, c'est très simple. C'est un des arts, une des expressions où le scénario est le plus respecté dans ses grandes lignes et même dans ses détails. Et donc, je suis parti par là.
Alors, c'est parti pour la bande dessinée. Vous allez scénariser plusieurs séries, à commencer par Brolandes d'âmes avec Renaud Deveau, Millie Brown, Lucius ou Le sourire de la Murène, La toile et la dague, Le maître des brumes avec Frédéric Delzan. Mais votre premier grand succès, Jean Dufaux, c'est à partir de 87, c'est une héroïne qui n'a pas froid aux yeux.
Comme ses créateurs, Jessica Blandy est auteure, chargée par son éditeur de recueillir les souvenirs du grand mafioso Cesare Vitale, qui songe à se retirer et va désigner son successeur. Dès les premières pages, le ton est donné. Les règlements de compte, violents comme dans Le Parrain, se succèdent. On retrouve même l'un des gangsters, transformé en statue sous-marine, aux côtés d'une pianiste à son clavier, en grande tenue de gala.
Voilà, extrait d'un livre un jour présenté par Olivier Barraud qui présentait ici le 8e tome des aventures de Jessica Blandy. Un mot quand même sur cette jeune femme qui est très affirmée. Hein. Comment est-ce qu'elle est née, Jean Dufaux ?
Par une passion des polars, par l'irruption d'un nouveau style, d'une nouvelle école du polar avec James Ellroy et d'autres. Et c'est-à-dire que j'ai voulu un petit peu appliquer, voir si ça pouvait s'appliquer en bande dessinée. Et donc Jessica Blandy, c'était cette jeune femme qui écrit, qui est tentée par l'alcoolisme ou l'alcoolisme l'attente, voilà.
Ah, et ça changeait vraiment de l'image de la femme dans la bande dessinée. Alors bien sûr, avant il y a eu Barbarella qui a un petit peu fait bouger les lignes, mais c'est vrai que des femmes héroïnes avec des caractères aussi affirmés, c'était quand même assez novateur dans ces années 80.
Oui, et en même temps, elle représente ces années 80, 90, je crois, où il y avait tout de même une émancipation, où il y avait une affirmation, des caractères s'affirmaient tout doucement. Moi j'ai vécu ça étant petit enfant des années 68, 70. J'ai vu effectivement cette ouverture, et puis malheureusement, ça s'est refermé beaucoup après, mais l'ouverture, je l'ai vue. Et il faut le dire que ce n'était pas toujours évident, puisque l'éditeur, parfois, freinait un petit peu le personnage. Je peux le comprendre parce que c'était chez un éditeur Dupuis.
Qui était plutôt classique, familial.
Très classique et il fallait imposer un personnage. Et donc imposer un personnage, c'est de ne pas le trahir et je ne pense pas qu'on ait trahi Jessica Blandy.
Pas trahi, en tout cas 24 tomes de 87 à 2006 avec un horsiste, un beau succès. Un autre de vos personnages récurrents, c'est Giacomo C. C'est comme Casanova dont vous imaginez les aventures à la fois galantes et un peu policières à travers les cours d'Europe. Il y aura aussi la série d'Heroic Fantasy, La Complainte des Landes Perdues, qui est inspirée par des légendes celtes, la série Jean, ou encore celle de Barracuda hein, dans le milieu de la piraterie. Vous voyez que j'ai bien révisé mes classiques, hein, Jean Dufaux.
Et puis, pauvre monsieur.
Il y en a tellement. Et puis en 2013, vous allez reprendre deux héros mythiques, écoutez.
Bonjour, docteur Septimus. Heureux de voir que vous êtes bien remis de votre enlèvement.
Tiens, ce cher professeur Mortimer. Quelle bonne surprise. Emparez-vous de lui.
Macumber, Vernet, Calvin. Non, non, non.
Voilà, Septimus et son ongle maléfique, long de Septimus, qui fait suite à la fameuse marque jaune d'Edgar Jacobs. Alors, vous allez scénariser cette reprise, cette suite, de même que le cri du Moloch. Est-ce que ça reste un bon souvenir, comme ça, de s'être attaqué à un monument de la BD, Jean Dufaux ?
Ce fut compliqué pour moi. Ouais. Ce fut compliqué parce que ces personnages ne m'appartenant pas, je n'avais pas une liberté totale pour les traiter. Et j'aurais aimé traiter plus en profondeur et plus loin le personnage d'Ulrich.
Le méchant dans l'affaire.
Ouais. Bah, l'un des méchants. Justement, ne plus en faire un méchant. C'est-à-dire que dans toute ma carrière, je n'ai jamais voulu me retrouver devant le cliché du tout méchant et du tout bon. Je crois que les nuances, c'est une chose extrêmement importante dans la vie pour tout le monde et même pour les personnages que l'on décrit. Ils vivent à partir de nuances. Ils ne vivent pas s'ils sont catalogués dans une catégorie bien bon méchant. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est par les nuances qu'on fait vivre un personnage.
Mais tout de même, donc Black et Mortimer, c'est un monument de la BD. Comment vous l'avez appréhendé ? Parce que c'est vrai qu'on s'attaque quand même. Il y a des codes à ne pas franchir. Enfin, il y a tout un esprit à respecter aussi.
Ah, ça, je l'ai vu dans mes droits d'auteur. Ouais. C'est un monument de la bande dessinée, ouais. De fait. Ouais. Oui, il y a des codes et en même temps, il faut les bousculer. Vous savez, s'il n'y avait pas eu de grands metteurs en scène et de grands scénaristes qui n'avaient pas bousculé le personnage de Batman, par exemple, nous n'aurions peut-être plus le Batman que l'on peut voir maintenant et qui reste d'actualité, je dirais même qu'il se renforce.
Toutes ces fragilités, ces doutes.
Voilà, on a mis en valeur les fragilités de Batman, le côté obscur, le côté où finalement lui-même se cherche et ne se trouve pas vraiment là où il pense se trouver. J'aurais aimé effectuer la même chose avec Ulrich. Je n'y suis pas vraiment arrivé, mais disons que ce fut un bonheur tout de même d'arpenter, je dirais, le territoire créé par Edgar Jacobs.
Comment est-ce qu'on pourrait caractériser votre univers, hein, Jean Dufaux, thriller, fantastique, historique, western, en parlant de BD, hein, sans mauvais jeu de mots, on a l'impression que vous cochez plusieurs cases, hein.
Alors, ce qui est très important pour moi dans la vie, c'est l'imaginaire. Je peux parler de moi, mais je dois partir par l'imaginaire. Et je crois que j'ai beaucoup parlé de moi, d'ailleurs, dans ce que j'ai écrit, mais par l'imaginaire, parce qu'on se projette dans l'imaginaire, et au bout de l'imaginaire, on peut se retrouver. Donc, quelque part, les questions que je peux me poser, moi, dans la vie, à savoir la condition féminine, le rapport d'un individu au pouvoir, comment est-ce qu'il peut survivre, comment est-ce qu'il peut contrôler ou pas contrôler ce pouvoir, le rapport au mysticisme, à la part, je dirais, fantastique que nous avons tous, mais nous sommes trop pressé pour y prêter attention. Ces questions-là, ce sont des questions qui partagent ma vie quotidienne. Je les ai fait passer par l'imaginaire. Et bon, pendant que je vous parle, là, j'ai ma bibliothèque autour de moi. Il y a quelques milliers de livres. Ce sont tous ces livres-là qui se reflètent, en fait, dans ce que j'écris.
Alors, votre actualité, c'est la sortie de Matteo Ricci à la Cité Interdite. Mais qui était-il, Matteo Ricci ? Comment vous l'avez traduit en bande dessinée avec votre complice au dessin, Martin Jamarc, qu'on aura tout à l'heure en ligne ? On va en parler. Ce sera juste après une première page musicale de votre choix. Et en tout premier lieu, bien, c'est Frank Sinatra. It was a very good year. C'était une très bonne année. Laquelle ? Est-ce qu'il y a quelque chose à fêter, Jean du faux.
Alors écoutez, il faut choisir le temps où nous vivons. Je pense que la nostalgie est une belle chose pour le passé, le futur sera merveilleux.
On l'espère.
N'en doute pas.
On l'espère.
Voilà.
Oui.
Les jours qui passent ne nous l'indiquent pas vraiment.
Oui, mais on peut toujours rêver.
Faut,
oui.
Voilà, on peut rêver, mais justement, échappons au rêve et disons que la belle journée, c'est la journée d'aujourd'hui, c'est celle, pendant que je vous parle, je vis au-dessus d'un lac, je vois le lac, il est là, je suis là. On est vivant, c'est
on est vivant et vous êtes avec nous. On va écouter Frank Sinatra et tout de suite après, eh bien, on parlera de Matteo Ricci.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. was 17. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission
Tout doux avec Vincent Belletti.
It was a very good year, The Voice, Frank Sinatra, le choix crooner et assumé de Jean Dufaux, l'un des grands scénaristes de la bande dessinée belge et francophone, dont l'album Matteo Ricci à la Cité Interdite vient de paraître chez Dargo, et ça commence comme ça.
Pékin, 1601. Jusqu'à présent, bien peu d'Occidentaux ont pu franchir les enceintes de la Cité Interdite. Un certain Ma Tang, collectionneur des taxes de Linxing, reçoit ses agents qui lui apprennent une bien étrange nouvelle. Un étranger s'est installé dans la ville. Il semble que ce ne soit ni un espion, ni un agent ennemi, mais un lettré qui a su gagner l'appui de certains mandarins. Il dispose d'ailleurs d'un passeport.
Et cet étranger, c'est donc le père Matteo Ricci, extrait donc du tout début de cet album, le père Matteo Ricci. Alors qui est-il, Jean Dufaux? Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est cet homme qui a vraiment existé, hein? C'est pas de la fiction, il a véritablement existé. Est-ce que vous pourriez nous retracer rapidement son parcours?
Oui, grosso modo, parce que en fait j'ai écrit tout cela il y a 2 ans déjà, ouais, donc ouais. La mémoire s'effiloche.
Oui.
Mais il est né à Macerata, donc en Italie. Il a fait il est né d'un père pharmacien, une famille de 13 enfants. Il a étudié à l'école jésuite de Rome. Il est rentré au noviciat des jésuites malgré l'opposition de son père. Il est parti en Chine. C'était une idée fixe, hein, chez Matteo Ricci, c'était de partir vers l'étranger, de partir loin. Il arrivait à Macao dans les années 1580, je crois, et il connaît déjà diverses langues chinoises, et ainsi que la langue écrite qui était le mandarin, pas le chinois, je le rappelle. Il se met à l'étude des chinois aussi, et puis il entre en Chine vers 1583-84, près de Canton. Il a une idée fixe, c'est rencontrer l'empereur et pouvoir échanger avec l'empereur, les valeurs humanitaires, les valeurs de la foi chrétienne, et tenter une évangélisation, je dirais, par le haut, par la cour, par le roi, et de voir si cela pouvait fonctionner.
Ouais.
Ça ne s'est pas admirablement bien produit.
Ouais, oui,
hein, puisque tout c'est.
Ouais, racontez pas trop la fin, hein, parce
non.
que est-ce qu'il va rencontrer l'empereur? Ça, on va laisser le suspense. Il y a des moyens d'avant. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est un missionnaire qui est aussi un homme de savoir. Il est baptisé le lettré du lointain Occident. Et c'est vrai que c'est un homme de science. Il faut le rappeler aussi, Matteo Ricci.
Oui, tout à fait. C'est ça qui connaissance en mathématiques, en astronomie, en horlogerie. C'était en musique d'ailleurs. Hein. Il a amené avec lui d'ailleurs une épinette, une map montre, des horloges. Donc c'était assez nouveau. La notion du temps par rapport à l'horloge, la notion de l'espace par rapport à des cartes, qui était très différente de celle de la Grande Chine. Donc quelque part, c'est aussi cette façon, cette volonté d'appréhender une culture différente sans la craindre.
Alors c'est ça justement qui est vraiment très fort et qui est très bien souligné, si je puis me permettre, dans ce livre, c'est que Matteo Ricci ne vient pas en missionnaire conquérant à imposer la foi chrétienne et à renverser les autres croyances. Il est très très respectueux des autres religions ou philosophies.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il est ouvert aux valeurs chinoises. Il a une tolérance, qui est quand même le mot essentiel des trois volumes que j'écris sur la foi. Et c'est-à-dire que, quelque part, on apprend toujours de ce qui est différent. On apprend toujours de ce qui n'est pas comme vous. Et je pense que ça, c'est très important dans toute démarche intellectuelle, même, je dirais, de nos jours ou du temps de Matteo Ricci, c'est la même chose. C'est-à-dire que quelque part, nous n'avons rien à imposer, nous avons des choses à apprendre, et nous avons aussi des choses à communiquer. Et c'est dans cette communication que peut naître l'espoir, finalement, d'une paix entre hommes de bonne volonté, si je puis dire.
Oui, une façon très douce, hein, si l'on peut dire, d'infuser la culture chrétienne dans le respect des autres religions. C'est ce qui caractérise vraiment Matteo Ricci, ce qu'il épouse d'ailleurs à Don Herrera, un autre personnage envoyé par la Sainte Inquisition qu'on retrouve dans cet album. Alors lui, c'est plutôt la matière forte, hein, de conversion, c'est-à-dire qu'il faut renverser, balayer tout ce qui n'est pas chrétien. Il y a d'ailleurs une rencontre assez musclée entre les deux hommes. Pourquoi avoir choisi cette période très précise de la vie de Matteo Ricci, qui est en attente de ce fameux rendez-vous avec l'empereur, un rendez-vous qui va d'ailleurs s'éterniser, hein, parce qu'on ne rentre pas comme ça à la cour impériale, il faut des mois et des mois de tractation pour pouvoir y mettre le pied. En quoi cette attente vous semblait une bonne approche de Matteo Ricci ?
Voilà, c'était surtout ça qui était difficile. Quelle approche ? Quel angle d'attaque ? Comment parler de cette vie ? Et finalement, c'est un peu le pinacle de lui. C'est au moment où il arrive enfin à cette cour de Chine, où il pense finalement concrétiser ses espoirs et ses rêves, des rêves d'enfant, des rêves d'adolescent. Et finalement, ça va fonctionner, mais sans qu'une rencontre ne se fasse vraiment. Ce qui m'avait frappé, vous savez, on écrit toujours un ouvrage, enfin moi en tout cas, à partir d'une image, à partir d'un point très précis, et à partir des noms des personnages, c'est aussi essentiel. Le point très précis, je n'avais pas d'aventure, je n'avais pas d'histoire, je n'avançais pas, j'ai compris que je pouvais avancer à partir d'une image qui était très précise et qui était celle du trône vide de l'empereur. De Matteo Ricci face au trône vide. Est-ce que parce qu'on se trouve devant un trône vide, on a raté sa mission, il faut repartir, on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire ? Non, tout simplement. Il y a quelque part un vide, mais ce vide a été rempli par la foi de Matteo Ricci, et il a réussi son pari malgré cette absence. C'est à partir de cette idée que j'ai commencé à tricoter, si je puis dire, toute l'histoire.
Alors dans cet album, il y a aussi toute une série de complots ourdis par des dignitaires jaloux du succès, du moins de l'intérêt porté à Matteo Ricci, des manœuvres pour le discréditer, on va pas tout raconter, mais c'est particulièrement bien vu. Ça fait aussi partie de votre univers, hein, les machinations, Jean Dufaux.
Ma foi, quand je vous entends, vous parlez du monde contemporain.
Ouais. Oh, mais même dans vos autres ouvrages de BD, il y a toujours quand même cette partie de complot, de mystère, hein, de suspense. C'est ça d'ailleurs qui fait toute la force de cet album et du fait qu'on s'y intéresse aussi.
Oui, mais je crois que c'est une politesse. Je crois que c'est une politesse d'entraîner le lecteur vers une envie de lire, de tourner la page. Il ne faut pas ennuyer un lecteur, il ne faut pas l'ennuyer non plus avec ses propres problèmes. On peut en parler d'une façon réfractée, c'est ce que j'aime. Et je pense qu'il y a l'humour, il y a l'aventure. Vous savez, regardez les livres qui sont toujours les plus lus encore actuellement, sont toujours des livres d'aventure. Regardez pour la jeunesse Harry Potter, c'est une révélation, c'est un phénomène. Cela a permis à des milliers de jeunes gens de lire, on part par l'aventure et par l'imaginaire. Et par l'imaginaire, on apprend tellement de choses. Et on apprend tellement une façon de vivre par l'imaginaire que quelque part, je me battrai toujours pour ça.
Jean Dufaux, on va continuer de parler de cet album, notamment des dessins. Mais le lundi, on parle aussi de santé avec des études, hein, pour nous aider à conserver la nôtre, si possible. C'est avec le docteur Pascal Douet, qui est spécialiste des questions de longévité. Et aujourd'hui, une étude qui, vous allez le voir, qui donne, on va dire, la frite.
Quoi de neuf, docteur ?
Tout va bien.
Merci, docteur.
Tout doux, mieux dans mon corps.
Et bonjour, Pascal.
Bonjour, Vincent. Bonjour, Jean.
Alors, Pascal, la nationalité belge de Jean vous a inspiré. Vous nous avez trouvé l'étude qui devrait lui plaire avec un de leurs symboles nationaux aux Belges.
Oui, Vincent, nous connaissons tous l'attachement que peuvent avoir les Belges avec les frites. Une enquête réalisée en 2013 rapportait que les Belges leur réservent toujours une place de choix au menu. 52% des Belges mangent des frites au moins une fois par semaine et environ 44% en mangent au moins une fois par semaine, mais cette fois chez eux. Et le jour de préférence est le dimanche.
C'est votre cas, Jean, le dimanche, c'est frites ou pas ?
Non, pas vraiment.
Vous aimez les frites quand même ?
Écoutez, j'aime les frites comme les Français.
Comme les Français.
Alors, on va revenir à l'étude du jour, Pascal. Sur quoi elle a porté exactement ?
Elle a cherché à comparer l'impact d'une consommation quotidienne d'une portion de frites à une portion d'amandes.
Mais Pascal, les frites et les amandes, ça n'a rien à voir en termes de santé. Comment est-ce qu'on peut les comparer ?
Et vous avez tout à fait raison, Vincent. Si les amandes sont réputées pour leurs bienfaits santé, ce n'est pas tout à fait le cas des frites. Les amandes réduisent le mauvais cholestérol et constituent à long terme une bien meilleure option pour aider à prévenir les maladies chroniques, y compris le diabète, ou à retarder leurs complications. Tandis que les frites sont accusées de favoriser l'obésité et d'augmenter le risque de maladies chroniques.
Alors, revenons à cette étude. Comment est-ce qu'elle a été menée très précisément ?
Alors, il faut quand même que je vous avoue, Vincent, que cette recherche a été financée par l'industrie de la pomme de terre aux États-Unis, l'Alliance for Potato Research and Education. Mais quoi qu'il en soit, cette étude conduite par l'école de santé publique de Harvard aux USA est de bonne qualité et a été publiée cette année dans l'American Journal of Clinical Nutrition.
Soit. Alors, comment s'est-elle déroulée, donc, cette étude ?
Alors, les chercheurs ont demandé à chacun des 180 participants en bonne santé d'ajouter une portion de 300 calories. Soit de frites, soit d'amandes à leur régime alimentaire habituel, et ce, tous les jours pendant un mois. La masse grasse corporelle, le poids corporel, la glycémie, l'insuline ont été mesurés au départ et à la fin de l'étude. Et un sous-groupe de 5 participants a également été évalué sur la glycémie après le repas.
Alors le match frites et amandes, quel était le résultat au final ?
Eh bien, aucune différence significative à un mois entre le groupe frites et le groupe amandes sur les paramètres de santé clés, comme la prise de poids et sur les biomarqueurs que nous venons de citer. Seule la glycémie après le repas était plus élevée dans le groupe frites.
Mais ça veut dire quoi finalement, Pascal ? Qu'on peut se lâcher sur les frites ?
Eh bien non, Vincent, les chercheurs le précisent clairement. Il s'agit d'une étude à court terme et seule une étude sur un effectif plus grand et sur une plus longue durée permettrait de tirer des conclusions. Et n'oublions pas que les apports en sel sont élevés avec les frites.
Comme quoi les frites peuvent aussi vous mettre à l'amende. Merci Pascal. Je rappelle que vous êtes l'auteur des nouvelles clés de la longévité. C'est paru chez Le Duc, de même qu'on peut faire le plein de conseils santé vérifiés, validés sur votre blog déclicattitude.com. Et côté frites ou patates, eh bien on vous retrouve avec énergie la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à vous, Pascal.
À la semaine prochaine.
Vive les frites, vive les frites, vive les frites d'hiver, qui se servent frissonnantes dans un grand plat en verre. Oh, vive les frites, vive les frites, vive les frites d'hiver, boule de gras et sauce qui pique, et une suce pour grand-mère.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, la bande-annonce des Tuches 4 avec des frites, des frites, des frites. Jean Dufraux, les frites, vous en consommez plus que les amandes ou finalement pas autant ?
Non, mais je crois rêver depuis 5 minutes là. Je suis dans une autre émission là.
Non, vous êtes bien.
Il y a un piège quelque part.
Non, vous êtes bien dans tout doux et c'est toujours la frite.
Écoutez, je crois que je vais penser à des amandes quand je vais manger des frites et je vais pencher. C'est épouvantable, ça va être perturbé comme message.
Bon, en tout cas, pas de frites belges, en tout cas, à la cour impériale chinoise. Hein. On va continuer à parler de votre album Matteo Ricci.
Des pâtes, voilà.
Des nouilles. On va parler de votre album Matteo Ricci à la Cité Interdite, et notamment les dessins qui sont signés Martin Jamard, votre déjà complice sur d'autres ouvrages. À tout de suite.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission
Tout doux.
Une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Jean Dufaux, l'un des grands scénaristes de la bande dessinée belge et francophone. Plus de 200 titres en rayon, dont le dernier, Matteo Ricci à la Cité Interdite, vient de sortir chez Dargo. Alors Jean Dufaux, si vous en avez assuré la scénarisation, par contre les dessins, eh bien on les doit à celui qui va tout de suite nous rejoindre. Voilà, une entrée fracassante, un bruit de gong pour vous accueillir, Martin Jamard. Bonjour.
Oui, bonjour Vincent, bonsoir.
Voilà, vous connaissez bien, on va en parler. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors Martin Jamard, c'est pas la première fois que vous collaborez avec Jean Dufaux, on va y venir. Juste avant, quand même quelques mots sur votre parcours. J'ai lu que vous aviez entamé des études de droit avant de passer à la bande dessinée. Vous auriez pu finir avocat ou notaire finalement ?
Absolument. tout à fait, oui, parce que en fait, ces études, je les ai entamées, mais je les ai même terminées et j'ai été jusqu'au bout. Donc, j'ai mon diplôme de droit quelque part qui traîne dans un tiroir.
Oui, que vous n'avez jamais utilisé finalement.
Que je n'ai jamais utilisé, non.
La bande dessinée, on peut vraiment dire que pour vous, c'était une vocation depuis tout petit.
Disons, en tout cas, le dessin, ça c'est une envie que j'ai, je pense, toujours eue. La bande dessinée, c'est venu peut-être un tout petit peu plus tard, quand j'ai commencé à me demander vers quoi j'allais me diriger pour essayer d'un petit peu gagner ma vie. Et c'était en tout cas pas avec mon diplôme de droit que je voulais exercer. Donc j'ai fait une rencontre pendant mes études justement universitaires et qui m'ont dirigé vers la bande dessinée, parce qu'au départ, je ne connaissais pas grand monde dans ce milieu-là. Et puis, parfois, il suffit de l'une ou l'autre bonne rencontre pour prendre une certaine direction.
Alors, François-Julien Le Réfractaire, Yvan Noël, La Lettre de Feu, ce sont quelques-unes des bandes dessinées que vous avez réalisées. Comment vous êtes rencontré avec Jean Dufaux? Je crois que c'était en 92, hein?
Oui, oui, ça doit être à peu près ça. En fait, c'est moi qui ai eu envie de travailler avec lui, que j'avais commencé avec deux autres scénaristes, mais qui faisaient ça plutôt de manière, je dirais, pas dilettante, mais enfin, c'était pas leur profession. Oui. Et bon, ce sont de bons souvenirs, mais à un moment donné, j'ai eu envie de vraiment travailler avec un
professionnel de la profession, comme on dit.
Oui, voilà, exactement. Oui, exactement. Mais sans vouloir minimiser le travail des précédent scénariste, mais voilà. Et donc, je connaissais déjà pas mal de bouquins écrits par Jean et qui me plaisaient beaucoup. Et donc, voilà, je l'ai contacté et on s'est rencontrés pour discuter de ce qu'on pourrait éventuellement faire ensemble. Et puis c'est parti.
C'est parti comme ça. Alors ensemble, vous avez réalisé Les Voleurs d'Empire, qui vous a valu d'ailleurs le prix du meilleur dessinateur décerné par la Chambre belge des experts de la bande dessinée. Vous portez chance, hein, Jean Dufaux.
Oui. Pas, mais il n'a pas vraiment besoin de moi pour avoir, je crois. Mais j'avais oublié un petit peu.
Voilà.
C'est vrai que c'est assez loin déjà, mais de fait, oui.
Alors il y a eu aussi Double Masque, et puis Vincent, autour de Saint-Vincent de Paul, et puis le très beau Charles de Foucault au désert avant Matteo Ricci. Comment vous avez travaillé sur ce dernier album Matteo Ricci? Comment vous travaillez d'une manière aussi générale avec Jean Dufaux? Il vous envoie un storyboard et vous l'illustrez ensuite? Enfin, comment ça se passe?
Oui, oui, c'est disons d'abord Jean qui se met au travail. Hein, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le sujet, sur le thème du prochain album, et donc voilà, il me fournit un scénario bien précis, découpé page par page, case par case, et donc voilà, moi je fais les planches au crayon pour commencer, et puis alors là, on aime bien de se rencontrer pour un peu discuter du travail. J'aime bien de lui montrer le premier stade de la planche, hein, pour avoir un regard extérieur sur mon travail. Ça, c'est assez important. Et voilà, et donc au fur et à mesure que moi j'avance dans le dessin, mais il écrit la suite de l'histoire, il me fait lire la suite de son scénario que je reçois, donc je dirais par séquence.
Par séquence. Alors, pour Matteo Ricci, j'imagine que vous avez dû avoir un énorme travail de documentation, hein, sur les traditions chinoises de l'époque, sur les lieux, le décor de la cité interdite, et puis le fameux trône aussi. Qu'est-ce qui vous a aidé dans la réalisation de ces dessins, Martin Jamard?
Mais disons que je ne suis pas allé sur place, ça aurait peut-être été mieux encore, mais c'était compliqué à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai rassemblé, mais comme je le fais pour chaque n'importe quel album, je rassemble de la documentation, d'abord des livres, et puis ce que je ne trouve pas dans les bouquins, je trouve en général sur Internet. Et donc, ben, par exemple, oui, ce trône, ça c'est vrai qu'il m'a donné pas mal de travail parce que c'était un modèle, je dirais, de siège assez compliqué dans, dans sa structure, sa conception, mais à partir du moment où j'ai des documents ici, pour ce trône, j'avais des photos. Alors bon, je pense que ça pouvait être un trône à peu près identique à celui de l'époque de Ricci, Voilà, jusqu'à présent, personne ne m'a dit le contraire. Mais oui.
Donc voilà, ça reste fidèle à l'histoire. Oui. Alors, il y a d'autres objets que Matteo Ricci veut proposer comme cadeau à l'empereur, parce que c'est la coutume, il faut proposer des cadeaux à l'empereur. Il y a notamment cet engin-là, un petit indice sonore. Alors on est bien d'accord, hein, c'est pas une horloge comtoise que va offrir Matteo Ricci à l'empereur, mais c'est une des premières horloges qui sont faites donc en Occident et qui vont servir donc de cadeau d'introduction. Je me retourne vers vous, Jean Dufaux, parce que cette horloge, elle a un rôle très précis. C'est grâce à elle d'ailleurs que Matteo Ricci va pouvoir mettre un premier pied, si je puis dire, dans la Cité interdite. Vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte de cette horloge?
Oui, en fait, c'est encore une mesure du temps qui est différente par rapport au continent que vous abordez. Et donc, c'est une chose très intéressante, c'est de se placer par rapport au temps et de montrer que les temps sont différents. Et quand les temps sont différents, forcément, tout est différent. Et quelque part aussi, c'est un beau geste diplomatique, je trouve, c'est de pouvoir s'introduire par un objet. Il faut toujours s'introduire, il faut toujours trouver un moyen de s'introduire dans une cour, ça c'est assez évident. Et cette horloge, non seulement sera un moyen de s'introduire auprès de l'empereur, mais ce qui me plaisait aussi dans l'histoire, c'est d'y ajouter une main féminine. Ajouter en fait une jeune femme qui peut effectivement travailler sur l'horloge, ce qui fait qu'en fait la surprise est double et le moyen de pénétration est double et même assez surprenant, puisqu'il s'agit d'un instrument de mesure qui n'est pas adéquat par rapport aux mœurs du pays, et en même temps c'est une présence féminine qui agit et qui travaille, ce qui est très nouveau. Et c'était la combinaison de ces deux forces qui m'intéressait.
D'ailleurs, c'est l'impératrice Douairière qui va découvrir cette horloge. Elle en tombe vraiment en stupéfaction devant cet objet qu'elle ne connaît pas, et que cette horloge tombe en panne, ça tombe bien. Matteo Ricci, avec son assistante, va pouvoir, grâce à elle, s'introduire dans la Cité interdite. Alors, un mot sur votre genre graphique. Martin Jamard, il est classique, il est bien expressif dans les visages, dans les postures, dans les scènes d'action. Le style réaliste, c'est quelque chose auquel vous avez tenu tout de suite?
Oui. Dès le début, je pense, c'est de cette façon-là que j'ai dessiné. Ça m'est arrivé de temps en temps de faire des dessins un peu plus humoristiques ou semi-réalistes, je dirais, mais pour des travaux extérieurs à mes albums, à la bande dessinée. Mais non, il n'y a rien à faire, c'est le style réaliste qui
l'emporte.
Qui m'intéresse le plus et que j'essaye de maîtriser.
Et que vous le faites d'ailleurs à la perfection. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette collaboration avec Jean Dufaux, dans son univers? Est-ce qu'il y a des choses qui vous correspondent, où vous vous retrouvez, Martin Jamard?
Qu'est-ce que j'aime? Mais son imagination, son inventivité, ce qu'il me propose comme scénario, je me suis toujours senti, je dirais, intéressé par ce qu'il m'a proposé. C'est un univers très 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 riche, je trouve, et
qui donne du grain à moudre au dessinateur que vous êtes. Il faut relever le challenge aussi de ce que Jean Dufaux vous traduit dans son imagination. Oui.
Voilà. Oui. Même si de temps en temps il aime un peu me pousser en dehors de mes zones de confort, comme il dit, par exemple avec l'album sur Charles de Foucault. Là, c'est vrai que je suis un peu sorti de mes habitudes et de ce que j'avais fait jusqu'à présent, et c'était pas forcément le plus facile, mais voilà.
Il faut un peu de difficulté comme ça pour avancer. Je vous retourne la question, Jean Dufaux, qu'est-ce qui vous plaît dans le dessin, la collaboration avec Martin Jamard?
Mais écoutez, c'est sa grande clarté. Je pense que Jamard est un classique, bien évidemment, et Dieu sait si le mot classique pour moi est d'une importance grande, parce que finalement, classique, c'est intemporel, c'est toujours moderne, un classique, ça ne se démode pas, ça ne suit pas des modes, ça traverse les modes, et je dirais qu'il y a une belle force de conviction dans les dessins de Martin Jamard. Je veux dire, lorsque vous voyez une bibliothèque ou lorsque vous voyez une armoire, on sait que l'armoire est remplie. Je sais que si j'ouvre le tiroir d'une armoire, il y a quelque chose dans ce tiroir. C'est ce que Visconti faisait d'ailleurs sur ses tournages. Quand il y avait un meuble, eh bien l'acteur qui jouait avec ce meuble et qui jouait devant ou derrière ce meuble savait que le meuble vivait parce qu'il était rempli de papier, de boutons, de canifs, etc., etc. C'est la même chose avec Martin Jamard, quelque part. Quand il me dessine un mur, il y a quelque chose derrière le mur. Il y a une lumière sur le mur. Il y a une lumière. Il a de très belles lumières, Martin Jamard, et c'est très important. Et donc, c'est un univers qui, graphiquement, m'a toujours séduit, tout simplement.
Eh bien, merci, Martin Jamard, d'avoir été avec nous. Puis, au plaisir de continuer à vous lire. Je sais pas si vous avez un autre projet commun, prochainement, avec Jean Dufaux.
On y travaille. Voilà, oui, tout à fait. Bon, voilà, mais en tout cas, un grand merci à vous d'avoir parlé de notre album.
Merci Martin d'avoir été avec nous. Dans un instant, Jean Dufaux, on parlera d'émotion et notamment de l'importance du souvenir. Ce sera le rendez-vous que d'émotion avec Delphine Argenson, mais ce sera juste après notre page musicale, toujours choisie par vous. Alors, vous avez parlé de cinéma, et bien justement, il y a quelques instants, Frank Sinatra, c'est Georges Delerue, compositeur de cinéma bien connu, dans une de ses créations mythiques, Le Mépris de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Pourquoi cette bande originale en particulier ?
Oh, parce que c'est une musique qui lève des images. Je pense que...
De belles images, avec les cuisses, les pieds, les cuisses. On se souvient de cette scène mythique. Hein, de Brigitte Bardot.
Voilà, mais il y avait aussi une villa absolument mythique. Il y avait Fritz Lang, il y avait Jack Palance, il y avait ce mélange improbable. Et puis aussi, c'est un des 4-5 Godard, pour moi, qui reste incontournable.
Eh bien, on va écouter le thème de Camille, hein, de Brigitte Bardot, dans Le Mépris du Godard. On se retrouve tout de suite après pour parler d'émotions.
Vous écoutez la rediffusion de l'émission
Tout doux avec Vincent Belletti.
Voilà le thème de Camille dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, le choix de Jean Dufaux, scénariste de bande dessinée, l'un des meilleurs, il faut le dire, de la bande dessinée franco-belge, qui en 2009 d'ailleurs a reçu les insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres des mains de l'ambassadeur de France à Bruxelles. C'était quand même pas rien ça, Jean Dufaux, non?
Oui, je me souviens, il pleuvait à cordes. Ouais. J'étais arrivé quasiment en retard, c'était la honte.
C'était la honte comme émotion que vous avez eue alors, l'honte d'arriver en retard.
Par rapport à moi-même.
Oui, d'accord. Alors en tout cas, vous parlez de honte, mais aussi de plaisir, de récompense. Eh bien les émotions, on les essaye de les décrypter tous les lundis avec Delphine Argenson, c'est notre coach spécialiste en intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la force du souvenir.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres ?
Mais je me sens jeune, jeune, mais jeune !
Je vous trouve très gentil.
Ouais, j'ai pas mal pleuré aujourd'hui.
Ah, personne n'est parfait !
Tout doux, que d'émotions !
Pourquoi est-il important de se souvenir du passé et en quoi le souvenir permet-il de mieux vivre le présent ? Bonjour Delphine !
Bonjour Vincent !
Alors mais à titre personnel, est-ce que c'est toujours aidant de se souvenir ?
Alors, c'est effectivement un sujet délicat. Les souvenirs sont importants, mais parfois, les sensations ou pensées sont trop douloureuses, voire handicapantes. Cela peut créer des incapacités à vivre pleinement aujourd'hui et nous empêcher de développer complètement notre potentiel et voire d'avancer dans la vie.
Et comment concrètement on peut identifier ces souvenirs handicapants ?
Alors, ce sont des non-dits, de la honte, de la culpabilité ou des croyances qui nous limitent et créent des émotions ancrées en nous. C'est pourquoi, quand la personne en ressent le besoin, nous abordons le passé dans nos accompagnements.
Est-ce que vous auriez justement un exemple à nous donner de personnes que vous avez accompagnées dans cette démarche du souvenir ?
Bah oui, par exemple, cette personne qui n'arrivait pas à s'entendre avec un collègue. Elle voyait chez lui toujours le même défaut qui l'irrite, l'empêche de travailler et lui fait ressasser indéfiniment cette difficulté. Bloquée, cette personne décide donc de consulter un professionnel.
Et alors, qu'est-ce que vous lui avez proposé comme accompagnement ?
Alors, pendant ces séances, elle va comprendre que cette situation lui rappelle d'autres situations similaires. En remontant dans ses souvenirs, elle trouve celui qui la touche émotionnellement. Et elle va alors ressentir corporellement de la peur, de la colère ou de la tristesse. Et cela peut se traduire finalement par des larmes ou une boule au ventre. Et à ce moment-là, nous lui faisons faire le lien avec ce qu'il se passe dans le présent.
Et revivre ce mauvais souvenir, ça va donc aider pour mieux vivre le présent.
En effet, se laissant traverser par l'émotion et étant aidé pour l'accueillir, la personne va enfin pouvoir extérioriser son mal-être et voir la situation plus objectivement. Et à ce moment-là, libérée de ce passé douloureux, elle va surmonter cette épreuve et devenir plus résiliente. Et dans mon exemple, là, la personne est repartie plus légère avec des clés pour développer une relation plus saine avec son collègue.
Eh bien, merci Delphine pour ce décryptage. Une chronique qui est soutenue, on le rappelle, par le SPQR Conseil et qui est à retrouver sur rcf.fr. Et sans avoir besoin de s'en souvenir, eh bien, on se retrouve très vite sur cette antenne. Bonne fin de semaine à vous, Delphine.
Doudou avec Vincent Belletti.
On va souvenir par l'un de vos anciens compatriotes, Jean Dufaux, à savoir Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous étiez fan.
Pas trop. Je respecte de toute façon le personnage, le parcours, qui est tout de même un des tout grands parcours de la chanson française. Ce serait tout à fait idiot de ne pas le reconnaître. Mais disons que j'étais très, très branché musique anglo-saxonne et classique. Voilà, et jazz.
Et jazz. Le souvenir, vous le transmettez autour de personnalités comme de Foucault, Saint-Vincent de Paul, aujourd'hui le missionnaire italien Matteo Ricci. En quoi c'est important pour vous qu'on se souvienne de ces figures-là à travers la bande dessinée ?
Je crois surtout que ce qui est important pour moi, et de plus en plus avec l'âge, c'est de me battre pour garder une mémoire culturelle, parce que nous sommes les enfants de cette culture. Coupés de cette culture, nous ne sommes strictement rien, ou bien nous sommes battus par les vents. Je crois qu'il est très important de garder en mémoire d'où nous venons, simplement aussi par notre famille, par nos racines, mais également par notre milieu, par notre histoire. Vous savez, vous parliez là tout à l'heure, où on parlait des sentiments, des émotions. Voilà, par exemple, savoir qu'il y a deux écoles. Il y a une école plutôt anglo-saxonne qui est plutôt pour le no pain, no explain, pas de douleur, pas de plainte. Comme on peut le voir d'ailleurs dans la série The Crown, pour le moment, on retient, on se façonne, on se bronze par rapport aux émotions. Et puis il y a le côté latin où effectivement, on peut donner du temps au souvenir, on peut donner du temps à la nostalgie, aux blessures, aux pleurs, etc., etc. Donc on est toujours entraîné quelque part par de vieilles écoles, et se couper de ce passé est impossible. Je crois que je suis toujours l'enfant d'une certaine Grèce, d'une certaine Rome, de François Ier dont on parlait, d'une certaine France, d'un bonheur d'une écriture, d'un bonheur d'un vocabulaire français, de mes lectures, de mes films, de ce que mes parents m'ont appris. Et être coupé de ça, ça me semble quasiment impossible.
Le choix de ces trois figures de foi chrétienne, Foucault, Saint-Vincent de Paul et Matteo Ricci, j'imagine que c'est pas un hasard, ça fait aussi partie de votre croyance, vos convictions chrétiennes, Jean Dufaux.
Ah, mais je crois qu'il y a un moment, il faut dire les choses, c'est-à-dire que effectivement, je suis croyant et donc quelque part, j'ai souvent laissé parler le diable dans mon travail. Il a eu de grands et larges boulevards, donc ça, c'est mission accomplie de ce côté-là, sachant que le diable, c'est vous, c'est ce qui est en vous. Le diable n'est jamais à l'extérieur, le diable, il est à l'intérieur. Il ne faut pas le chercher à l'extérieur.
Et vous donc.
Et puis finalement, je me dis c'est très bien, mais il y a aussi vraiment une foi, une croyance en des valeurs spirituelles. Le Nouveau Testament restera toujours pour moi une de mes plus belles lectures. C'est une lecture, en fait, qui me permet de ne pas passer dans mes moments, je dirais, difficiles par la dépression. J'ai toujours réussi à éviter les dépressions, justement, par cette foi, par ce côté vraiment une force spirituelle. Comme ça vient de l'intérieur, il m'est très difficile d'en parler, parce que quelque part, c'est quelque chose qui se nourrit de l'intérieur, de vous. Ma famille était divisée en deux clans, littéralement. J'avais le clan des femmes qui était très croyante, et le clan des hommes qui était très laïque. Et donc, j'ai entendu les deux, j'ai pu voir vraiment les deux territoires, réfléchir sur les deux territoires, et la foi l'a emporté avec beaucoup de simplicité. La foi, d'ailleurs, s'il y a bien une chose, vraiment, laquelle je suis extrêmement reconnaissant à foi, c'est qu'elle m'a permis d'aborder la simplicité en vieillissant. Et ça, c'est essentiel, de pouvoir comprendre, toucher du bout des doigts, je dis bien du bout des doigts, la simplicité en vieillissant. Et ça, c'est la foi qui me l'a apporté.
On va se retrouver dans quelques secondes pour terminer ensemble cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Le catholicisme, bon, est peut-être culturellement une minorité en Chine, bon, oui, certainement, mais en même temps, il est enraciné au départ par cet étranger dans l'histoire nationale et culturelle chinoise. Et alors ça, je crois que c'est très important pour les catholiques en Chine maintenant.
Matteo Ricci, celui qui a contribué à l'inculturation de la foi chrétienne en Chine au début du XVIIe siècle, comme le rappelait ici le père Michel Masson, jésuite, qui a enseigné à l'université chinoise de Hong Kong et président de l'Institut Ricci pour les études chinoises. C'était extrait de l'émission « La foi prise au mot » par nos confrères de KTO en avril 2010. Qu'est-ce qu'il vous a appris à vous, finalement, Jean Dufaux, Matteo Ricci? Est-ce qu'il y a une leçon ou, je sais pas, un enseignement ou quelque chose qui vous a touché dans son parcours?
Le fait que je puisse toujours l'entendre et lui parler, le fait que Matteo Ricci peut me citer Confucius, peut me citer une foi qui est différente de la sienne, que quelque part il va m'apprendre des choses de l'extérieur, de l'autre, d'une autre culture. Et donc en fait, il est extrêmement vivant, extrêmement moderne pour moi par justement cette très grande générosité. Et la générosité, c'est quelque chose qui devient parfois assez rare. Et je pense qu'il faut vraiment la cultiver là où elle se trouve. Matteo Ricci est un homme d'une grande générosité, comme était d'ailleurs Vincent de Paul quand on y pense dans le Paris, un Paris miséreux tout de même de l'époque. Donc ce sont des figures pour moi qui m'apportent toujours une ligne, un point à saisir et qui est devant moi et pas derrière. Et donc quelque part, on avance. Je pense qu'on avance avec des gens comme Matteo Ricci, comme Charles de Foucault ou Saint-Vincent de Paul.
Matteo Ricci dans La Cité Interdite, un album BD signé Jean Dufaux pour le scénario, Martin Jamard pour les dessins. Très bel album qui rend vraiment vivant cet homme pétri de foi, de culture et de tolérance. Un grand merci vraiment Jean Dufaux d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à celui qui s'est donné comme mission réussie de réaliser cette émission. Absolument. En régie.
Je vous remercie tous en tout cas.
Merci. Cette émission, vous pouvez la réécouter en écoute libre, en podcast sur le site rcf.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.